CFM en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Et le MAG du Tarn-et-Garonne laisse la place à Politiquement Votre. Kader Youb, bonjour.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Vos invités aujourd'hui ?
Deux invités aujourd'hui, effectivement, dans ce rendez-vous politique de CFM Radio. Hélène Massip, porte-parole de la Confédération Paysanne du Tarn-et-Garonne, et Laurent Mascaras, avocat. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour Kader.
Bonjour.
Bonjour madame.
Plusieurs sujets à l'ordre du jour avec vous, si vous êtes bien d'accord. Un mot tout d'abord sur l'actualité immédiate, celle de la COP28 qui vient de s'achever et cet accord historique trouvé à Dubaï sur une transition hors des énergies fossiles. Les États qui participaient à cette conférence mondiale sur le climat ont approuvé un texte de compromis appelant à abandonner progressivement les combustibles fossiles, afin d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Je suppose, Hélène Massip, que cet accord trouvé a dû vous contenter.
Oui, un accord trouvé historique et un consensus de la même, forcément, il est porteur d'espoir. Maintenant, il y a toujours des mais, il n'y en a pas qu'un peu, parce que tout est lié. Il n'est pas contraignant. Et surtout, il n'est pas, alors je n'utiliserai pas les bons mots, un avocat me corrigerait, mais il n'est pas...
Il n'y a pas de deadline, c'est ça que vous voulez dire ?
Non, pas forcément de deadline. Il n'est pas prédominant par rapport à des accords qui sont supranationaux et qui sont auxquels nous devons obéir. Il y en a des grosses contradictions avec cet accord-là et ces efforts-là qui sont faits. Et puis tous les accords de libre-échange qui, eux, sont... c'est de l'inaction climatique, quoi. C'est même dangereux.
Laurent Mascaras, votre avis sur cet accord ? Est-ce que vous l'applaudissez ? C'est finalement un bon début, si je puis dire ?
Ah oui, moi je l'applaudis, oui, cet accord. Je l'applaudis et on ne peut pas, sauf à ne pas être raisonnable et raisonné dans sa pensée, ne pas l'applaudir. Après, il faut toujours regarder le sens de l'histoire et comment les choses peuvent se faire. Et celle à laquelle on aspire et comment elles peuvent se faire. Il est évident que quand la COP commence, on n'imagine pas qu'on aura cet accord. On n'imagine pas parce que les voyants sont plus au rouge qu'au vert. On sait très bien qu'il y a une problématique sur les comportements de l'Asie. Qui ont un besoin de développement ou une envie de développement, une volonté de développement à travers le maintien d'énergie fossile. Et d'autre côté, une approche un peu plus raisonnée des pays de l'Ouest qui considèrent que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, le paradoxe, ça se fait à Dubaï, ça se fait au pays du pétrole, et on pouvait penser qu'on n'en sortirait rien.
On a cet accord. C'est ça qui est curieux, cette...
On a cet accord. Il n'est pas fait pour être imposé. Il est fait pour acter une situation. Et à un moment donné, pour avoir une réflexion, il faut partir d'une base. Là, on a aujourd'hui une base bien précise, qui n'est pas coercitive, qui n'est pas immédiatement applicable, mais qui doit servir pour pouvoir développer une logique. Et cette logique, c'est la sortie de l'énergie fossile. C'est ça. Bon. Je trouve que c'est plutôt bien. Voilà.
Hélène Massip, cet antagonisme à ce que cette COP28 se déroule à Dubaï, avec autour de la table les plus grands exportateurs de pétrole dans le monde, est-ce qu'il n'y a pas un détail qui nous a échappé ? On ose à peine le croire.
Il y a cet antagonisme qui court depuis toujours, et je suis d'accord avec Maître, c'est qu'il faut revenir à l'historique. Depuis que l'alimentation et l'agriculture a été mis dans les accords de libre-échange, le bout du tunnel recule ou l'impasse se fait plus forte ou le mur est plus proche, je ne sais pas comment le dire. Mais en tout cas, l'alimentation ne peut pas aujourd'hui continuer à être une variable d'ajustement dans un système néolibéral qui est catastrophique à la fois sur le plan social et environnemental et sur le plan des inégalités économiques. Alors après, bien sûr qu'on peut chercher il faut chercher à sortir des énergies fossiles, etc. Mais il faudrait reprendre effectivement le problème dans son ensemble, à la base, et ne pas mettre des patchs sur des jambes de bois. Il faudrait repenser notre condition de citoyen, notre condition d'humain sur la planète, et sortir de cette espèce d'aveuglement dans le dogme du libre-échange surtout.
C'est pas une anomalie que ça se passe à Dubaï. Les pays du Golfe sont depuis un certain nombre d'années dans une logique de la sortie du pétrole. Parce que le pétrole est une source qui va se tarir. Et ils sont depuis très longtemps dans cette logique-là, traitement de la mer, utilisation du soleil, des centrales qui sont faites avec des
photovoltaïques.
Du photovoltaïque. Enfin voilà, une volonté d'ouvrir. Donc il n'y a pas quelque chose qui... C'est pas une anomalie.
Hélène Massip, donc, je le disais, vous êtes porte-parole de la Confédération Paysanne et vous êtes aussi productrice de légumes, de fruits bio. Pourquoi vous avez choisi le bio, Hélène Massip?
Alors, je rectifie juste, on est quatre co-porte-parole à la Confédération Paysanne parce que l'union fait la force.
Oui.
Et moi, effectivement, je suis productrice en maraîchage, du coup, bio. Alors pourquoi ? Parce que quand je me suis installée hors cadre familial, comme on appelle, c'est-à-dire non issu du milieu agricole comme la majorité d'entre nous aujourd'hui, puisque c'est mathématique, il y a de moins en moins de paysans, et c'est ce que d'ailleurs c'est ce que revendique la Conf. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé aujourd'hui. Notre slogan, ça serait d'installer 1 million de paysans pour demain. Bref, donc moi je me suis installée. La logique, et si je reviens à l'agriculture et si je reviens sur des bases saines, l'agriculture biologique me semblait le plus approprié.
La production bio continue d'augmenter, mais en face, la consommation, elle baisse avec des chiffres qui sont alarmants pour cette filière. Comment vous l'appréhendez, cette baisse de la consommation ? Est-ce dû au prix ? Est-ce dû à...
Non, il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui voilà, le bio est le vent en poupe, mais les politiques publiques qui étaient mises en place ont décidé, ça c'est un choix politique pour le coup, en 2017 notamment, de retirer les aides au maintien de l'agriculture bio et de laisser le marché s'auto-réguler. Bon, mais quand on laisse un marché s'auto-réguler, je me permets de faire le parallèle avec la crise de 29 et ce qui est arrivé en Europe par la suite. Le marché auto-régulé ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, crise énergétique, crise géopolitique en Ukraine et bien ailleurs, on voit les conséquences que ça a. Crise du Covid, crise sanitaire, il y en aura d'autres dans le futur. Et la conséquence, c'est que le marché est en train de prendre du plomb dans l'aile. Et les politiques publiques ne suivent pas. Les politiques d'engagement, de restructuration ou d'aide à la filière ne sont pas conséquentes et ne sont pas efficaces.
Laurent Mascaras, le principal reproche qui est fait à l'agriculture bio, il porte sur ses faibles rendements en cette période où la sécurité alimentaire redevient un enjeu majeur à l'échelle internationale. Est-ce que la généralisation du bio, c'est la solution ?
Non. Je ne pense pas que ça puisse être la solution, pour la simple et bonne raison qu'il va falloir, à un moment donné, se poser la question, relativement simple, de dire, est-ce que on va nourrir la planète par un atelier à graines qui pourra fournir toute la planète, et donc une agriculture qui permettra de pouvoir produire assez pour nourrir la planète. Et si c'est le cas, je ne vois pas comment on pourra le faire autrement que par une organisation industrielle. Je dis le mot à bon escient. Industrielle de l'agriculture, qui permet de pouvoir produire et donc de pouvoir fournir l'alimentation à toute la planète. Ensuite, que l'on n'accepte pas que ce système soit coopté, pris en main par quelques groupes internationaux qui feraient régner une loi économique défavorable à des pays qui seraient en difficulté, ça je peux l'entendre. Et la production et la mise en œuvre de cette production dans le partage, c'est deux choses différentes. La réduction de la production à travers une agriculture qui serait bio, moins efficiente et moins productive, à mon avis, sera la problématique de ne pas pouvoir fournir, sans qu'on ait même à se poser la question de savoir comment on va fournir.
Vous êtes d'accord, Hélène Massy?
Je ne peux pas être d'accord parce que plusieurs études ont montré que, bien évidemment, l'agriculture biologique pouvait tout à fait nourrir la planète. Ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de répartition. Et l'agriculture biologique, certes, a des rendements plus faibles à court terme par rapport à une culture qui est dopée d'énergie fossile, cela dit en passant. Mais toutes les externalités sont positives. Le maintien de la biodiversité, le bien-être animal, la qualité des cours d'eau, la santé préservée, tout ça c'est du long terme. Notre planète aujourd'hui elle est en train de s'asphyxier, elle est en train de mourir et nous les humains qui la composons nous sommes en train de manger tous ces pesticides et glyphosates et compagnie qui sont reconnus aujourd'hui cancérigènes. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut revenir vers une logique du vivant, en fait, une logique d'agriculture paysanne. Et je rappelle juste au passage que la planète est nourrie à 75% par des petits paysans. Il n'y a que nous, occidentaux, qui fournissons une agriculture industrielle qui a, alors je ne vais pas sortir de pourcentage, mais qui a une grande majorité pourrie la planète, on peut dire ça, et menacer l'habitabilité de cette planète. Ce mot, il est joli et je le rends à son auteur. Monsieur Philippe Latour, pardon. Bref, il faut revenir vers des logiques du vivant, en fait.
Hélène Massy, Laurent Mascaras, Hélène Massy faisait référence au glyphosate et une annonce qui est passée un petit peu presque inaperçue, en tout cas pas pour ceux qui sont à l'écoute. La Commission européenne a recommandé de renouveler l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Est-ce que ça, c'est un problème, selon vous? Sans vote, une décision presque arbitraire, unilatérale.
Le problème, ce n'est pas d'avoir interdit le glyphosate ou aujourd'hui de le réautoriser. C'est d'interdire le glyphosate sans avoir trouvé une solution pour le remplacer. Pourquoi pas une solution, effectivement, moins pénalisante pour la nature et qui va entraîner des difficultés dans l'exercice de l'activité des agriculteurs. Et c'est eux-mêmes qui l'ont demandé. C'est eux-mêmes qui ont demandé à pouvoir réutiliser le glyphosate en disant « Nous, on n'y arrive pas ».
Alors, pas tous ces agriculteurs.
Non, mais pas tous. Mais oui, mais une fois de plus, est-ce qu'on est sur un système où on a une agriculture qui est en train de se développer? On parle de bio, mais il y a d'autres modes culturels. Donc, est-ce qu'on est sur ce système-là qui, aujourd'hui, est... Alors, on nous parle de plusieurs années pour pouvoir, un jour, remplacer. Bon, mais aujourd'hui, dans l'immédiateté, là, comment on fait? Donc, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le temps que la nouvelle agriculture se mette en place, on est bien obligé de faire avec l'ancienne. Et avant qu'on invente un produit aussi efficace que le glyphosate, qui sera bio ou qui ne sera pas aussi nocif pour la nature, je peux entendre qu'il y ait une nocivité. Mais tant qu'on ne l'aura pas inventé, on va se trouver avec des problèmes qui sont plus graves que le fait de ne pas utiliser le produit. Alors, c'est un arbitrage permanent. Le problème, c'est que c'est comme... moi, je veux bien que ce soit les petits agriculteurs qui nourrissent la planète. Vous le dites, je n'ai même pas mis de discuter le chiffre. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on répond aux pays où il y a de la malnutrition? Qu'est-ce qu'on répond aux pays qui vivent la famine et qui souvent sont dans des situations où le dérèglement climatique... Alors on peut dire, mais s'il n'y avait pas eu le dérèglement climatique, on n'en serait pas là. Oui, mais il y a le dérèglement climatique. Et la gestion de celui qui a faim, c'est à midi. Il est bientôt midi. Donc c'était aujourd'hui que ça se passe. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On décide qu'une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie doit mourir de faim le temps qu'on réorganise le monde autour d'une nouvelle façon de faire de l'agriculture.
Et Hélène Massy, cette temporalité, est-ce que vous la comprenez? Qu'il faut nourrir les gens et que ça n'attend pas.
Alors bien évidemment, il faut nourrir les gens. Maintenant, pour pouvoir regarder demain, il faut aussi, pour moi, savoir ce qui s'est passé hier. Si l'Afrique aujourd'hui, et la France, cela dit en passant, ne sont plus autonomes alimentairement parlant et que la fameuse souveraineté alimentaire n'est plus de mise, et largement pas, 50% des fruits et légumes sont importés. Hein. Dans les années 90, on était autonomes. 90, c'était il n'y a pas très longtemps quand même. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'Afrique se nourrissait. L'Afrique n'avait pas de problème de famine. Il y a eu aussi largement des accords, ce ne sont pas des accords justement qui ont été imposés, mais une déstructuration de leur agriculture vivrière dont nous occidentaux, sommes responsables.
Alors, il y a après, aussi l'explosion démographique.
Il y a aussi, bien sûr, l'explosion démographique. Elle aurait pu être gérée différemment. On aurait pu se raconter une autre histoire que celle que l'on a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bien sûr qu'on est dans une impasse et bien sûr qu'il y aura des difficultés parce que si on fait bouger un pion d'un côté, l'effet papillon, il est bien évidemment existant. N'empêche qu'on continue à utiliser le glyphosate. Alors, l'accord n'a pas été unilatéral.
C'est une décision de la commission sans vote qui a été prise.
Voilà, c'est ça. C'est une décision imposée, on va dire. Le débat, il n'y est pas. La majorité de la société civile est quand même opposée à cette utilisation-là, vu la négativité qui en ressort à tout niveau, en fait. Et le débat n'a pas lieu. C'est ça qui est problématique, parce que...
C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de démocratie, c'est autre chose. On est sur autre chose.
Mais c'est un problème politique.
On est sur la manière dont on... C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que y a comment on va gérer l'agriculture de demain ou comment on va gérer la démocratie de demain. Mais il y a des décisions à prendre. Il y a certaines des décisions qui sont prises un petit peu de manière immédiate, parce que le problème doit être réglé de suite. Alors, sinon, on discuterait peut-être encore pendant 2 ans de l'utilisation du glyphosate, ce qui était le cas avant qu'on l'interdise.
On a parlé de Laurent Mascaras, on a parlé du glyphosate. Une autre décision qui va se prendre très, très prochainement, c'est celle des OGM. Cette semaine se tient à Bruxelles des réunions préparatoire pour sonder les États membres sur la nouvelle réglementation OGM-NTG. NTG, ce sont les nouvelles techniques génétiques. La présidence espagnole de l'Union européenne souhaite accélérer le calendrier dans le but d'obtenir un vote au Parlement avant la fin janvier 2024. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'Espagne, qui préside l'Europe, ne veut pas accélérer les choses parce que, finalement, c'est dans leur intérêt et dans l'intérêt de leurs agriculteurs ?
Ça, c'est évident. L'accélérer parce que on est en Espagne sur une culture de fruits et légumes qui est faite sur un mode industriel. Là, on y est sur le mode industriel. Alors, il est vrai qu'eux, ils ont un intérêt à pouvoir développer des produits hybrides qui seront plus faciles, qui vont mûrir plus vite, qui vont pouvoir pousser hors sol, tout ce qui existe déjà, mais qui va peut-être être développé. Oui, alors eux, ils ont un intérêt direct. Le débat, il faut qu'il ait lieu. Et les oppositions doivent être aussi présentes autour de la table. C'est pour effectivement, il y a des garde-fous. Il faut toujours faire attention à ce que l'on fait. Et la parole de quelqu'un qui va dire non a tout autant d'intérêt que celui qui dit oui. Donc on pose le problème et on arbitre. Mais là aussi, les OGM, c'est très compliqué, les OGM.
Anne Massy, votre avis sur cette accélération du calendrier voulu par l'Espagne.
L'accélération du calendrier voulu par l'Espagne, certes, oui. Les lobbies sont là, les enjeux financiers sont là, mais on ne fait plus de politique. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, maître, c'est qu'aujourd'hui, on pense court terme et on ne fait plus de politique. On ne réfléchit plus à ce que souhaite le peuple et comment administrer la cité si on prend cette définition du mot politique. Aujourd'hui, que ce soit le glyphosate ou que ce soit les OGM, la société civile, n'en veut pas et le dit clairement. Et pourtant, on leur impose. Derrière ça, la technicité de l'OGM, je pense que c'est une catastrophe pour le vivant qui avait déjà été dénoncée précédemment. Le débat n'a toujours pas eu lieu. Et aujourd'hui, on remet notre avenir dans les semences à 5 multinationales qui feront la pluie et le beau temps je reviens à ce mot d'habitabilité de la planète, parce que ça c'est ça. Leur logique, à ces multinationales, ne sont pas celles du vivant. Ce ne sont pas celles des populations qui veulent être nourries le plus sainement possible. Aujourd'hui, on meurt de l'air qu'on respire et on meurt de la nourriture que l'on mange. Je pense qu'il y a des questions à se poser.
Bon, Mascaras.
Les grands laboratoires sont toutes des sociétés multinationales très extrêmement puissantes. Et c'est elles qui mettent à marché les médicaments et c'est avec ça que l'on guérit et non pas avec cela que l'on meurt. Et qu'aujourd'hui, on vit jusqu'à 100 ans et qu'il y a 50 ans, on vivait jusqu'à 70. Alors, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Là aussi, on peut considérer que cette intrusion dans la vie humaine, dans le plus profond de la vie humaine, puisque c'est ce qui va, à un moment donné, modifier une partie de nous-mêmes, c'est toutes les chimiothérapies, c'est toutes les médecines qui sont extrêmement agressives d'un point de vue de l'homme, de lui-même, mais en même temps qui sauvent.
Allez, il nous reste très très peu de temps. Je voudrais avec vous aborder un dernier chapitre sur les contestations, les mouvements de contestation auxquels participe volontiers la Confédération paysanne. Vous m'arrêterez si je me trompe, mais on a vu ces derniers temps à Sainte-Soline, plus près de chez nous, lors des manifestations contre le projet d'autoroute A69, les manifestations contre ces projets se multiplient avec une incompréhension totale des différentes parties. Quel constat, Laurent Mascaras, vous faites sur l'évolution des mouvements de résistance aux projets d'envergure ?
Moi, je suis pour les mouvements de contestation. Oui. Je trouve ça extrêmement
intéressant. Donc vous serez d'accord avec Hélène Massip alors ?
Je suis d'accord. Moi, j'aime l'opposition, j'aime la discussion et j'aime même qu'on puisse me donner tort parce que c'est très intéressant. Chacun évolue dans ce type de discussion. Les mouvements d'opposition aujourd'hui sont en revanche extrêmement violents. Mais la société est extrêmement violente. On vit dans une société extrêmement violente. Il suffit de traverser la rue un peu vite pour que quelqu'un qui va arriver sur le piéton va l'insulter ou il peut si jamais il y a une réponse de l'un ou de l'autre, ça peut très bien très mal se finir. Donc on a des mouvements sociaux qui sont violents dans une société violente. Comment réussir à apaiser l'un sans l'autre, c'est compliqué. Qui doit arrêter le premier ? La société ou celui qui manifeste et qui reprend à son compte ces mouvements violents ? Il y a aussi des mouvements non violents. Des mouvements non violents, avec le fait de se coucher sur la route,
oui.
Qui sont aussi mal perçus par ceux qui le subissent et qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, génèrent de la violence de la part de ceux qui viennent s'opposer à ce qui est en train de se passer. Donc tout ça est quand même assez compliqué.
Hélène Massip, cette violence ?
La violence, elle n'y est pas forcément. La violence, elle en existe de trois ordres, je ne vais pas refaire la chose. Oui. En tout cas, la violence institutionnelle, elle est là aujourd'hui. Nous, le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les droits des paysans et des paysannes. Et aussi, les communs. Je ne mets même pas le mot bien commun, les communs tout court. Donc, il y a plusieurs techniques à ça. Nous, la Confédération paysanne, on prône la non-violence, évidemment. Maintenant, si on prend le cas de Sainte-Soline, les faits sont là, le nombre de CRS qui étaient présents, etc. Je ne refais pas l'histoire. En tout cas, une condamnation de ces manifestations-là, ça serait de nature à affaiblir la liberté syndicale et la liberté d'expression. Ce que nous, on bien sûr, on n'est pas d'accord.
On suivra vos actions. Voilà. Je suis désolé, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. Vous reviendrez pour en parler.
Tout à fait.
Merci
tout à fait
beaucoup.
On a juste survolé les sujets, on n'a pas eu le temps. On reviendra.
Merci Laurent Mascaras, merci Hélène Massip.